Bien, merci. Bonjour à tous. Je vais en profiter pour adresser à votre honorable société des remerciements pour quelque chose qui s'est passé il y a 33 ans. Alors vous allez dire, en parenthèse, on a le remerciement tardif, hein, peut-être même poussif. Mais c'est vrai qu'il y a 33 ans, ben justement, on faisait allusion à Lucien Chaboutier, c'était lui qui était responsable des publications. Et c'est lui qui m'avait ouvert un peu vos publications. Il y avait l'habitude à cette époque, dans la revue L'Histoire en Savoie, de numéros thématiques. C'est-à-dire qu'il y avait eu un numéro qui s'appelait « Naître en Savoie », il y avait eu « Le mariage en Savoie », il y avait eu « Mourir en Savoie », il me semble. Et donc, il m'avait posé la question si je voulais bien faire quelque chose sur le thème des épidémies. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a posé cette question? Bon, on se connaissait bien, on était quasiment voisins. C'est tout simplement parce qu'il savait que j'avais travaillé sur le sujet. J'avais fait un certain nombre de conférences. Il y a quelques articles qui avaient paru, Cahiers du Vieux Conflans ou sur d'autres supports. Et donc, voilà, il souhaitait qu'il y ait une petite synthèse et ça avait donné lieu à cette brochure. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet? Il y a quelque chose de très fortuit. Il y a un prêtre qui m'avait remis un cahier qui venait d'un prêtre des années 1930. C'est un cahier d'écolier sur lequel il avait noté au cours de plusieurs décennies tout ce qu'il trouvait sur les épidémies dans d'anciens documents. Je ne sais pas s'il avait l'idée, un moment ou un autre, de faire quelque chose, mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvé avec dépositaire de ce cahier. Je me suis dit, c'est quand même assez intéressant. Et j'avais des préoccupations qui n'étaient pas directement historiques, mais ça m'intéressait quand même. C'était l'époque où je faisais beaucoup d'épistémologie. C'est la partie de la philo qui s'occupe un peu du fonctionnement des sciences. Et je lisais beaucoup Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. C'est un bouquin qui est apparu en 1865. Et Claude Bernard essaye de dire à quelles conditions la médecine, qui existe depuis la plus haute antiquité, peut devenir une discipline scientifique. Donc l'idée d'une médecine expérimentale. Et puis je lisais aussi Bachelard, enfin au moins la partie plus scientifique, L'esprit scientifique, où il explique lui aussi ce passage de l'empirisme à la science. Et donc ses recherches sur les épidémies, ça me permettait d'avoir un très bon éclairage parce que, justement, les épidémies d'autrefois, on est en plein dans ce qu'on peut appeler cette médecine empirique. Et puis, il y a aussi un autre... Là, on est dans les années 1980, deuxième moitié des années 80. Il y a une autre chose qui était importante, c'est qu'on commençait à beaucoup parler d'une épidémie qui s'appelle le sida. Et c'est vrai que les épidémies, on avait un peu l'idée que c'était fini et que ça appartenait à une autre époque. Et puis, d'un seul coup, non seulement il y avait une épidémie, mais qui en plus était une pandémie. C'est-à-dire que les épidémies, bon, on avait un peu l'idée, de plus en plus, ça va devenir très ponctuel. Mais là, bon, ça s'est répandu sur l'ensemble des continents. Donc, l'éclairage historique est intéressant. L'histoire donne, c'est pas du prêt-à-porter, hein, ça donne jamais de réponse complète, mais il y a quand même un intérêt à ce niveau-là. Alors, si je veux vous remercier, je pense que vous connaissez tous la formule d'Andy Warhol, qui a dit que dans l'avenir, chacun aurait un quart d'heure de gloire mondial. Eh bien, grâce à vous, j'ai eu, pas un quart d'heure, j'ai eu une journée de gloire régionale. Ce jour-là, on était à la fin du mois d'avril 2020, on était deux à porter la France, voyez. C'est pas tout à fait un face-à-face, c'est un profil à face. Lui n'est plus là, moi je suis devant vous. Vous savez, après 6 semaines de confinement, le Dauphiné avait peut-être plus beaucoup de sujets envisagés. Et un journaliste me téléphone en me disant « Vous avez écrit le livre sur les épidémies en Savoie ». J'ai eu quelques secondes un peu de « le livre sur les épidémies », bon, petite brochure. Hein. N'empêche qu'en 33 ans, il ne devait pas y avoir grand monde qui s'était intéressé au sujet, ou alors c'est que le Dauphiné libéré a quand même une bibliothèque bien à jour. Et donc, voilà, il était venu m'interviewer pour que je lui fasse un petit comparatif entre ce qui se passait autrefois et ce qui se passe aujourd'hui. On va essayer de regarder ce qu'on appelait les maladies d'Ancien Régime. Je dis ce qu'on appelait parce qu'aujourd'hui, plus encore qu'à l'époque du sida, on se dit, est-ce que ce sont vraiment des maladies d'Ancien Régime ? Parce que quand on disait les maladies d'Ancien Régime, bon, on se doutait bien que la Révolution n'a rien entraîné à ce niveau-là. Mais on comprend l'image, ça voulait dire ce sont les maladies d'autrefois. Ce sont les maladies qui, aujourd'hui, concernent plutôt des lointains que les pays occidentaux. Mais c'était l'expression que tout le monde utilisait. Dans les textes anciens, le mot qui est toujours utilisé, enfin l'expression, c'est le mal contagieux. Pourquoi cette expression ? D'abord parce que c'est une expression fourre-tout. Les diagnostics, souvent, sont tellement flous qu'il vaut mieux dire le mal contagieux qu'essayer de trouver un terme précis. Mais en même temps, on sait très bien, et en particulier dans le domaine de la santé, qu'il y a des mots tabous. Aujourd'hui, faites l'expérience, hein, prenez la page nécrologique du Dauphiné, il n'y a personne qui meurt d'un cancer. Les gens meurent d'une longue et douloureuse maladie. Dans les textes anciens, ça c'est très intéressant, c'est que je prends des lieux géographiques que j'invente, mais peu importe, c'est pour faire comprendre le mécanisme. Admettons qu'à Chambéry, on apprenne qu'il y ait la peste à Paris, et bien dans les textes, on va écrire « il y a la peste à Paris ». Puis la peste arrive à Lyon. Eh bien, il y a beaucoup de Chambériens qui vont se mettre à écrire « le mal contagieux est à Lyon ». Et le jour où elle viendra frapper aux portes de Chambéry, là, plus personne ne parlera de la peste. C'est un mot qui fait peur, parce qu'on sait que si c'est la peste, ça veut dire que c'est la mort. Il y a le côté inéluctable. Donc, le mal contagieux, c'était à la fois la possibilité de mettre beaucoup de choses dans la même expression, et en même temps, ça évitait de nommer les choses. Parce que nommer les choses, dans ce domaine-là, c'est très brutal. Je vais commencer par vous parler de la peste que l'on dit bubonique. Bubonique tout simplement parce que les symptômes les plus visibles, ce sont des bubons, donc de gros boutons noirs, qui apparaissent sur le corps, qui se gangrènent très rapidement. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on parle de peste noire. Et c'est cette grande épidémie, cette pandémie qui va apparaître en Europe vers 1346. La deuxième date, c'est simplement un point de repère pour situer le premier grand assaut. On est en 1346 et 1353. Donc vous voyez, ça veut dire, parfois on dit, oh, le Covid, ça fait un an et demi, le premier assaut, il a duré 7 ans. Et ensuite, elle est restée endémique. 1720, bon, c'est une date qui n'aurait pas dû exister. 1720, c'est ce qu'on appelle la grande peste de Marseille. Il vaudrait mieux dire d'ailleurs la peste de Provence, hein, parce qu'elle n'est pas restée dans les murs de Marseille. Elle n'aurait pas dû exister. Bah, c'est un débat actuel. Hein. Il y a un moment, on se dit... Est-ce qu'on prend le maximum de mesures parce qu'il faut préserver la santé ? Ou est-ce qu'on dit qu'il y a quand même l'économie qu'il faut préserver ? Et le débat, c'était un peu ça. Et 1720, on a des protocoles très précis. Quand un bateau arrive, il y a des mesures de quarantaine. Et à Marseille, ben, il y a quelqu'un qui veut faire passer l'économie avant la protection et qui fait décharger un bateau qui vient d'arriver pour réaliser quelques bonnes affaires. Donc, cette grande peste de Marseille, quelque part, elle n'aurait pas dû exister si les processus mis en place avaient été respectés. S'il fallait mettre plutôt une date de fin, chez nous, en Savoie, on peut dire 17e siècle. Le dernier grand assaut en Savoie, on est autour de 1640 à peu près. Bon, mais voilà, après il y a eu encore quelques manifestations. Ça vous donne un cadre, donc milieu 14e siècle, hein, c'est le départ, jusqu'au 17e siècle, sachant que la peste continue à circuler. Hein, là, on parle vraiment de notre territoire. Je pense qu'on peut déjà remarquer une chose. Bon, c'est une pandémie, puisque on a l'Asie, on a l'Europe, on a une partie de l'Afrique. Après, les deux autres continents, à cette époque, on n'avait pas trop d'informations. Oui, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a quand même au nord une ligne avec des territoires qui ne sont pas touchés. Alors, on peut se dire, bon, c'est des territoires qui étaient peut-être moins peuplés, mais il y a peut-être d'autres raisons sur lesquelles on reviendra. Hein, ça veut dire que là, on est au bout de 5 ans d'épidémie, et vous voyez, cette extension considérable. Les statistiques sont toujours à prendre, enfin, avec de grandes précautions, parce que comme on a beaucoup de mal à dire quelle était la population de l'Europe à cette époque, quelle était la population mondiale, donc on peut avoir des chiffres qui vont du simple au double, voire presque au triple. On dit souvent qu'un tiers de la population européenne a disparu en l'espace de quelques mois. On estime que ça peut faire 25 millions de morts. Et au niveau global, sur tout le 14e siècle, les historiens nous disent qu'il y a eu 75 millions de morts. Certains disent que c'est 200 millions de morts. Peu importe, hein, les chiffres précis, moi je pense qu'il faut le traduire en disant c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça veut dire que c'est des familles qui disparaissent, ce sont des villages entiers qui disparaissent. Hein. On a rarement connu par la suite, même si on a eu des périodes de crise très fortes, on a sans doute rarement connu ce qui s'est passé au milieu du 14e siècle. Trois mots. Quand on parle de la peste, comme du choléra, comme d'autres maladies, donc ce sont des épidémies. Ça veut dire qu'on a une transmission d'individu à individu et une transmission qui se fait généralement très rapidement. À partir du moment où on a un territoire qui est celui de plusieurs continents, donc on parle de pandémie, et endémique, ça veut dire qu'il y a un ou des foyers qui vont faire que l'épidémie va revenir de manière chronique. Et ça peut durer 3 siècles, 4 siècles, ou même pour le choléra, où le foyer est en Inde, on a encore un temps beaucoup plus long. On va prendre un premier zoom. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Le Beaufortin, sur la période 1570-1571. Pourquoi pas avant? Ben, tout simplement parce qu'il vaut mieux parler de périodes où on a quand même de la documentation. Là, on commence à avoir des données qui sont un peu plus précises. Le Beaufortin, je pense que vous avez vos points de repère. On a Beaufort, on a le Villard de Beaufort, on a Hauteluz. Et puis, la peste arrive dans un petit hameau qui s'appelle La Pierre. Et là, je pense qu'on a des éléments de compréhension, simplement en regardant cette carte. D'abord, on est en bordure d'un chemin. Et puis, surtout, on est quasiment à un carrefour. C'est-à-dire que quand vous montez depuis Conflans, vous allez passer à côté de La Pierre. Quand vous descendez de Beaufort, vous y passez. Et quand vous allez à Hauteluz, vous y passez aussi. Il ne faut pas oublier que nous, on résonne depuis le bas vers le haut, mais au-dessus de Beaufort, il y a le Cormet de Roseland, qui n'a pas été inventé pour le Tour de France, mais qui était un passage très fréquenté. Et au-dessus de l'Autluche, il y a le col des Saisies, qui lui aussi était très fréquenté. Ça veut dire que la pierre, ce n'est pas un hameau qui est à l'écart, mais au contraire, c'est un point de circulation. Et puis, je vous ai mis dessous, parce que ce qui est intéressant à cette époque, c'est qu'on a le fameux recensement de 1561. Donc, vous savez, pour la gabelle du sel, la première, enfin, qui est aussi précise. Et ça nous donne, pour chaque hameau, pour chaque communauté, mais ensuite on descend au niveau de chaque hameau, le pourcentage de pauvres. Alors, la pauvreté, c'est relatif, mais là, on a un critère très simple. Sont appelés pauvres les gens qui sont non imposables, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus, ils ont un nombre, un cheptel, un nombre d'animaux qui est trop faible pour qu'ils puissent être imposés. À la pierre, 28% de la population. Alors, je vous donne une comparaison, parce que 28%, ça ne veut rien dire. En Tarentaise, la moyenne, c'est 7%. Donc, ça veut dire que là, on est dans un hameau où la population pauvre est 4 fois la moyenne du territoire plus vaste. Donc, je pense que là, on a deux clés. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est à un lieu de passage ou pas? Et la population, comment on peut la définir? Parce que pauvreté, ça veut dire conditions de vie précaires, ça veut dire le fait que c'est peut-être plus insalubre que dans d'autres milieux. Et là, vous avez quand même des clés importantes. Je vous ai fait un petit schéma. Enfin, j'ai récupéré un petit schéma, c'est pas moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Vous avez une petite chose jaune en bas de la première flèche. Bon, ça c'est simplement pour représenter le virus de la peste. Ensuite, vous avez, je vous le présente, on y reviendra, vous avez Rattus rattus. Alors, Rattus rattus, plus simplement, c'est le rat noir. Et le rat noir, c'est quelqu'un qui a joué un rôle fort néfaste parce qu'il héberge la peste, mais la peste ne le tue pas. Donc, c'est une entreprise de transport de peste. Et sur Rattus rattus, eh bien, il y a le pou, les poux qui vont s'installer. Et si Rattus rattus est dans un environnement humain, eh bien, ça veut dire que les poux vont passer du rat à l'homme. Et c'est ce qui va expliquer les bubons, c'est l'endroit où les poux auront piqué. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de deux vecteurs. On a le vecteur principal qui est le rat, mais qui, hébergeant la peste et hébergeant en même temps des poux, il va amener les poux jusqu'à l'homme, involontairement, mais c'est ce qui va être responsable de cette peste noire. Et puis, une fois qu'un homme est atteint, vous voyez qu'après, vous avez encore une flèche qui relie les deux personnages, ça veut dire que celui qui héberge la peste, eh bien, par le fait qu'il tousse, par le fait qu'il éternue, etc., ça va devenir à ce moment-là une peste pulmonaire, et donc c'est l'homme qui devient à son tour le vecteur de la peste. Dessous, je vous ai mis, alors vous allez me dire, bon, ça on connaît, printemps, été, automne, hiver, mais avec une flèche rouge et une flèche jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand arrive le printemps et l'été, la peste monte en flèche. Quand arrive l'automne et l'hiver, la peste régresse. Donc, c'est l'inverse de la Covid. Et l'été dernier, on nous disait quand va arriver l'automne ou l'hiver, il y aura peut-être une cinquième vague. Bon, a priori, on y est, donc ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fonctionne ? Ce n'est pas le fait que ce soit l'automne ou l'hiver. C'est le fait que l'automne ou l'hiver nous fait vivre dans des conditions qui rend la propagation du virus plus facile. Là, c'est le même phénomène, mais qui est inversé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand arrive l'automne, on va vers le froid, surtout chez nous. Donc, ce n'est pas très favorable ni au rat, ni à la puce, ni au pou. Donc, quand arrive le printemps, bah, au contraire, hein, ils vont revenir et voilà. Alors, on disait tout à l'heure, on est à l'automne quand la peste se manifeste à la pierre. Donc ça veut dire que ça ne va pas se développer énormément. Il y a une rémission hivernale. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a gommé la peste. Je vous présente donc Rattus rattus. Et aujourd'hui, celui qui est chez nous, c'est le Rattus norvegius. Donc, vous comprenez peut-être déjà un peu le mécanisme. Ça veut dire que Rattus rattus, il y a un moment où il s'en va, parce qu'on va avoir le petit âge glaciaire qui va arriver un peu à son apogée. Et le Norvégien, s'il fait plus froid chez nous, il va descendre. Bon, peut-être que vous devinez la suite de l'histoire. C'est que s'il fait de plus en plus chaud chez nous, il y a un jour où Rattus rattus va venir frapper à la porte. Pas impossible. Hein ? Alors, on retourne dans le Beaufortin. Suite de l'histoire, on est maintenant au printemps 1571. Donc, réchauffement. Et puis, il y a aussi ce que l'homme fait, ce que les hommes font. Et j'ai mis deux choses, c'est qu'on a une reprise des travaux agricoles, donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se déplacent, il y a des gens qui vont se rencontrer plus facilement. Et j'ai mis aussi Pâques, parce que les clusters dans les églises, ça existe. Hein. Donc là, il faut bien se dire une chose, c'est que les fêtes pascales, c'est tous les hameaux du Beaufortin qui convergent vers le même lieu fermé, à savoir l'église de Beaufort. Et surtout à cette période-là. Bon, quelque part, ils convergent tous les dimanches, mais pour les fêtes pascales, bon, ben, ce sont des fêtes d'obligation, donc ce sont des très grands rassemblements. Ben, résultat, dans le Beaufortin, 700 morts. Alors, bon, là aussi, bon, faut pas oublier une chose, hein, Beaufort, il me semble que ça a été à certains moments la deuxième commune de Savoie par le nombre d'habitants. Beaufort arrivait derrière Chambéry. Donc c'est une très grosse commune, mais une commune dispersée en je ne sais plus combien de hameaux. Mais 700 morts, ça veut quand même dire que c'est sans doute un peu moins du tiers, mais quand même pas très loin du tiers de la population qui disparaît. Et cette peste, alors, qui ne va pas au-delà du Beaufortin, elle va durer jusqu'à la Noël 1571. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que très probablement, à Noël, il s'est calmé, c'est que c'est devenu une peste pulmonaire, donc ça veut dire que ce sont les individus qui, de l'un à l'autre, ont continué à se contaminer jusqu'au mois de décembre. Avant d'en arriver à ce qui a vraiment été le grand assaut, bon, j'avais mis quelques repères. 1588, la peste est dans la région d'Ème. 1596, elle revient à Beaufort, où on a un texte qui dit « Les vivants ne suffisaient à enterrer les morts ». Donc on n'a pas de chiffres, mais quand vous dites ça, c'est que, vous voyez, ça repart. La peste, comme toutes les épidémies, ça touche plutôt les pauvres que les riches, mais il n'empêche qu'en 1598, on a un archevêque de Tarentaise, donc Parpaglia, qui est décédé de la peste. Il a quand même, on verra tout à l'heure, les remèdes possibles, entre guillemets. Il a quand même tenté quelque chose. Il a quitté Moutier, c'est-à-dire il a quitté le milieu urbain pour aller dans une des maisons des archevêques de Tarentaise au Villaret des Saluts, mais il a emmené la peste avec lui. L'archevêque meurt. À cette époque, un archevêque qui meurt de la peste, je pense que ça devait quand même être assez marquant. Etc. Parce que si on descend au niveau, voyez, des villages, on n'est pas sûr que ce soit forcément la peste à chaque fois, mais tout à l'heure, je vous montrerai un graphique au niveau de Moutier. Vous savez, quasiment trois fois par décennie, on a ce qu'on appelle un clocher pointu de la mortalité. Ça veut dire que, en gros, tous les 10 ans, à 3 reprises, on a d'un seul coup la mortalité qui s'emballe. On en vient maintenant à la grande épidémie. C'est vrai que quand on a des témoignages chez nous, qu'on parle de la peste, c'est quasiment toujours sur cette période 1629-1631. C'est au moins, pour ce qui est un peu répertorié, c'est la plus grande épidémie. Un petit peu de latin. Et en même temps, ça nous permet de réviser notre litanie des saints. Dans la litanie des saints, dans la dernière partie, quand on prie pour un certain nombre de mots, Emmaüx, il y a cette phrase qui dit « Affamé, bello et peste, libera nos domine ». Seigneur, libère-nous de la faim, de la guerre et de l'épidémie. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans la même phrase, parce qu'on aurait pu imaginer de dire ces trois mots différents. On est dans la même phrase parce que tout est lié. Et bien souvent, il faut partir de la guerre. S'il y a la guerre, ça veut dire qu'il va y avoir des réquisitions. Réquisition, ça veut dire qu'il suffit que l'année précédente n'ait pas été excellente, on va ponctionner dans des réserves qui ne sont pas très importantes. Donc, automatiquement, il y a une malnutrition, et cette malnutrition, elle entraîne, elle ouvre la porte plus facilement à des maladies. Donc, il suffit qu'une épidémie se promène par là, on a des corps qui sont plus vulnérables, et on arrive au troisième point, l'épidémie qui s'installe, et sachant que, pourquoi est-ce que l'épidémie, elle est là ? Bien souvent, ça nous ramène au point de départ, c'est parce que les militaires, il n'y a rien de mieux que pour transporter une épidémie. Ils se déplacent et ils vivent dans des conditions qui sont des conditions précaires. Donc, vous voyez, tout est lié. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'est née une expression populaire qui dit « un malheur n'arrive jamais seul ». On est en mai 1630, Louis XIII entre en Savoie, et ce qu'on appelle la troisième occupation française. Ah, les points de repère sont simples. La première, c'est François Ier. La deuxième, c'est Henri IV. La troisième, c'est Louis XIII. Et puis, les deux suivantes, ce sera Louis XIV. Donc, on passe en revue quasiment toute l'histoire de France. Et Louis XIII entre en Savoie, mais bon, ses troupes, il séjourne, ils vont aller dans les différentes vallées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a d'une part donc, des déplacements, on a des conditions de vie sans hygiène, et puis on a les réquisitions. Et dès l'automne 1629, puis ensuite au printemps 1630 jusqu'au début de 1631, donc quasiment pendant 2 ans, la peste s'installe en Savoie. Après, il y a des portes d'entrée. Louis XIII n'est peut-être pas responsable de tout, parce qu'on s'aperçoit que une fois que la peste se manifeste, elle peut rentrer aussi bien par les cols qui donnent à la fois sur le Val d'Ost, donc Petit Saint-Bernard, et sur le Piémont, donc principalement le Mont-Cenis, mais elle peut arriver aussi par le bas, avec les troupes, et c'est un peu un phénomène d'étau. Il y a un moment où la peste arrive un peu par tous les chemins possibles, et là, c'est difficile d'y échapper. Alors, on va prendre deux, trois petits flashs comme ça. Montgiraud. Pas si tout le monde s'y tue, Montgiraud, on est au-dessus d'Em. On passe au-dessus de l'étroit du Sieix. Et Montgiraud, il n'y avait pas le même nombre de morts chaque année, hein, mais ça veut dire qu'avant et après, j'ai fait une moyenne, hein, ça explique les lignes droites. À Montgiraud, il y avait un peu plus de 7 morts par an. Et en 1630, il y en a 219. Donc vous voyez, vous passez de 7 à 219. Bon, les matheux, vous calculez le pourcentage d'augmentation. Après, bon, je n'ai pas mis le chiffre, mais vous voyez que le trait sur les années suivantes, il est plus bas. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu tellement de morts que là, les années qui suivent, on en a plus 7, mais si je me souviens bien, on doit être autour de 4, quelque chose. Il y a un optimum sur les 219 morts, il y en a 160 au mois de juillet. 160, ça veut dire 5 décès par jour. Tous les jours du mois de juillet, si on fait une moyenne, du 1er au 31, 5 morts tous les jours. Sachant qu'avant, il y en avait 7 sur une année. Donc, vous voyez, c'est ça l'épidémie, hein, c'est ça une épidémie de peste. C'est énorme. Alors, je crois que j'ai un deuxième exemple. Oui, c'est. Donc, on est toujours dans le canton d'Em, c'est à Pézet, où là, sur les 3 ans qui précèdent, on a 9 décès en moyenne par an. Dans les années qui suivent, on descend à 2,4. Pourquoi on descend aussi bas ? Ben c'est tout simplement parce qu'on a 153 morts, et 153 morts, dont 136 de juin à novembre 1630. Donc là, c'est un peu plus bas, hein, comparativement, mais ça veut dire qu'on a quand même 22-23 décès par mois. Donc voilà comment ça se manifeste. Vous voyez, quand on utilise l'expression clocher pointu, je pense que vous comprenez pourquoi. C'est que d'un seul coup, on a l'impression que ça prend feu, et après, assez rapidement, ça retombe, en attendant le prochain clocher. Au niveau de Granier, bon, là, on est un peu, on est toujours dans le même secteur. Granier, ça fait partie de ce qu'on appelle le versant du soleil, donc on est aussi au-dessus d'Em. Pour Granier, il se trouve qu'on a des chiffres beaucoup plus précis, parce que je rappelle quand même une chose, bon, certains connaissent bien un petit peu ces registres. 1630, c'est souvent un peu après 1630 que les paroisses sont vraiment dotées de registres de catholicité. Alors, le registre de catholicité, c'est formidable parce que le registre des baptêmes, vous pouvez le considérer comme le registre des naissances, et le registre des sépultures, vous pouvez le considérer comme le registre des décès. Donc, ça vous donne l'état civil et vous pouvez faire des statistiques. Mais avant 1630, toutes les paroisses en sont pas dotées, peut-être parce qu'on a perdu des registres. Et puis, voilà, c'est des habitudes qui sont rentrées petit à petit. Alors, Granier, le nombre de morts, donc on est au village, au chef-lieu, 123. À La Tuile, donc, qui est le principal hameau, 61. Et un autre petit hameau de Bonvillard, 17. Donc il y a 200 morts à Granier. Est-ce que c'est très significatif quand on essaye de distinguer entre hommes et femmes? On a. Au niveau des jeunes et du nombre de familles. Parce que je l'avais fait aussi au niveau de hommes et femmes. On s'aperçoit que la peste, sur le grand nombre, on est dans du 50-50. Les jeunes, 111. Ce que j'appelle jeunes, c'est ceux qui vivent dans leur famille, qui ne sont pas mariés, donc on va dire les jusqu'à 12, 13, 14 ans, c'est quand même un peu plus de la moitié. Hein. Donc ça veut dire que ça a d'autant plus de conséquences qu'il y a beaucoup de morts, mais ce n'est pas que la population très âgée, ça touche aussi les jeunes aussi bien que les personnes âgées. Et quand il y a 200 morts, il y a 108 familles qui sont touchées. Donc ça veut dire que là, on n'est peut-être pas loin de faire le tour des foyers de Granier à cette époque. Il y a très peu de familles qui ont échappé. Voilà. Et là, bon, j'avais fait une répartition en disant dans chacune des familles combien est-ce qu'il y a de morts. Bah, vous voyez, au maximum, il y a quand même 3 familles dans lesquelles il y a 6 morts, 5 dans lesquelles il y a 5 morts. Bon, bah, dans ce cas-là, on se rend compte d'une chose d'ailleurs, hein, il faudrait le faire de manière un peu systématique, c'est que quand on prend la consigne du sel de 1561, et quand on prend les registres de 1635 à peu près, bah, on s'aperçoit qu'il y a des familles qui ont disparu. Alors, pour certaines, peut-être qu'elles ont migré, mais on a bien l'impression que certaines disparaissent totalement au moment de l'épidémie. Vous voyez, si je prends mon cas personnel, du côté de ma famille maternelle, on est dans la vallée de l'Aurousse, donc sur la route du col de la Madeleine, et dans une communauté qui s'appelle Bonneval, bon, Bonneval-Tarentaise. Il y a 4 villages. Il y en a 3 qui sont le long du chemin, et il y en a un qui s'appelle le Biolay, qui est plus en hauteur. Bon, ben, ma famille, je connais un peu l'histoire, parce qu'ils ont fondé une chapelle en 1631, et ils fondent une chapelle, pourquoi ? Bien, parce qu'ils veulent remercier du fait que ils ont été préservés de l'épidémie. Alors, il n'y a pas que ma famille, il y a aussi les autres familles, mais elles sont toutes du village le plus élevé. Et dans la décennie qui suit, bah, ils s'installent dans les 3 villages du bas. Donc ça veut dire que dans les 3 villages du bas, d'un seul coup, il y avait des bâtiments disponibles, il y avait des terres disponibles, et ça veut dire que le col de la Madeleine, là aussi, pour nous aujourd'hui, c'est le Tour de France. Mais autrefois, c'était un axe important de circulation tarentaise-maurienne. Et donc, ça veut dire que la peste, elle passe là où on passe. On a bientôt fait le tour des pages roses du Larousse. Ça, c'est le principal remède contre la peste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire que voilà, il faut partir vite. Alors, sitôt, ça veut dire effectivement immédiatement. Longué, ça veut dire loin, hein, et tarder le plus longtemps possible. Donc, là encore, hein, on n'a rien inventé. Vous savez, les gens qui, la Covid arrive, qui se rappellent d'un seul coup qu'ils ont un chalet à Courchevel, ben c'est ça, hein. La seule moyen d'échapper à une épidémie, bah, quand l'épidémie est là, il faut partir. Mais partir, ça veut dire quoi ? Qui peut partir à cette époque ? Si vous avez une vache et 3 chèvres, partir, ça veut dire que c'est l'aventure complète, quoi. Par définition, le paysan, c'est quelqu'un qui est attaché à son pays. Hein. Donc ça, bah, c'est le meilleur moyen, mais c'est un moyen pour les riches. Ceux qui peuvent, effectivement, il faut aller le plus loin possible, là où on sait qu'il n'y a pas l'épidémie, et en espérant qu'elle ne se déplace pas plus vite que vous. Mais voilà, c'est le dicton qui était répété. Alors, qu'est-ce qu'on proposait pour ceux qui restaient ? Les expressions qu'on va trouver dans beaucoup de textes, c'est le séquestrement et le bannissement des maisons et familles. Donc, séquestrement, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que dès que la peste est quelque part, il faut s'enfermer. Et à plus forte raison, si vous êtes dans une famille où quelqu'un a contacté Mais c'est pas seulement il faut s'enfermer, hein. Sequestrer, voilà, le terme est un terme judiciaire. Et bannissement des maisons et des familles, c'est-à-dire que il faut peut-être pas lésiner. Une maison qui a été touchée, il faut que la maison soit vidée et il faut que la famille parte. Alors, elle part où ? Il y a une pratique, c'est la mise en cabane. Alors, la mise en cabane, c'est quoi ? Ben, c'est que à l'extérieur du village, on construit des petites cabanes dans lesquelles on sequestre ceux qui ont été touchés, ceux qui ont la maladie ou ceux qui ont été à proximité de gens ayant la maladie. Et j'ai vérifié, parce que c'est un bon moyen au niveau de l'évolution des expressions, Aristide Bruand, qui est l'auteur d'un très bon dictionnaire de l'argot qui est paru en 1900, il explique bien que le passage s'est fait du langage de la maladie au langage de la prison. C'est-à-dire qu'on a commencé par rapport aux maladies de dire « on met en cabane », c'est là où l'expression naît, et ensuite, être mis en cabane, aujourd'hui, ça veut dire être emprisonné. Mais c'est dans ce cadre-là, vous voyez, que ces expressions et d'autres sont nées. Vous savez, 135 euros, hein, si vous ne respectez pas. À peine de 1000 livres d'amende et de la vie. 1000 livres, c'est quoi ? Eh bien, point de comparaison simple, c'est l'époque où une vache coûte 40 livres. Donc, 1000 livres, c'est 25 vaches. C'est l'époque où, dans les villages chez nous, vous avez 5 vaches, vous vivez dans une certaine aisance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amende proposée, c'est une amende que personne ne peut payer. Donc, si vous ne payez pas l'amende, vous passez au petit B. Le petit B, c'est « et de la vie ». Bah, généralement, comme c'était l'arme qu'avaient les gardes, ça veut dire que vous êtes arquebusier. Donc, ça veut dire qu'on vous tue. On vous tue. Vous ne voulez pas respecter. Hein. On va placer des gardes aux points les plus... Voilà, les grands points de passage. Ces gardes, ils sont armés. On pose la question, hein, où allez-vous ? D'où venez-vous, surtout ? Parce que c'est ça, c'est... Où allez-vous ? C'est pas la grande question, mais est-ce que vous arrivez de régions dans lesquelles il y a l'épidémie ? Ben, si vous voulez passer de force, on vous tire dessus. Donc, vous voyez, là, on comprend assez rapidement, hein, et le confinement, et le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de la circulation. Quand vous êtes rentré tout à l'heure, on vous a demandé si vous aviez de bonnes bullettes de santé. Robert a contrôlé vos bullettes de santé. Ben, vous voyez, ça existe, hein, au XVIIe siècle. Bon, ça n'a pas la même forme, ça ne passe pas par le smartphone, mais les bullettes de santé... Alors, bon, après, c'était quand même à relativiser, parce que c'est quoi ? C'est un certificat qui dit que là, de là où vous ne venez pas d'une région infestée. La bonne bullette, c'est quoi ? C'est la bullette qui a été faite il n'y a pas trop longtemps et qui est renouvelée régulièrement. Parce que ça veut dire que si vous déplacez beaucoup, à mesure que vous arrivez quelque part, il faut faire renouveler votre laissez-passer. Parce que si vous êtes colporteur et que vous traversez des pays entiers, voilà, la bullette de départ, elle n'a plus aucun sens. Le pass sanitaire, ce n'est pas une invention il y a quelques mois, mais voilà, c'est une pratique fort ancienne. Comment les choses étaient organisées en Savoie ? Il faut reconnaître que, comme souvent au niveau de l'administration savoyarde, il y avait quand même une organisation qui était presque un peu en avance, hein, par rapport à d'autres pays européens. Après, quand il y a la maladie, chacun fait comme il peut. Hein. Mais en tout cas, voilà le schéma. Alors, j'ai recopié tel qu'il était prévu au niveau aujourd'hui on dirait quasiment le canton d'Aisne, enfin la partie haute du canton d'Aisne. Alors le magistrat de santé, ça c'est, aujourd'hui on dirait c'est le ministère de la santé. C'est un organe créé par le pouvoir central et c'est lui qui va diffuser les procédures. Ensuite, sur le terrain, il y a un coordinateur qui se trouve à Bellentre, peu importe que ce soit Bellentre ou ailleurs, mais disons, il y a quelqu'un qui, par rapport aux 6 communautés concernées, va être chargé de mettre en place un dispositif. Sous ses ordres, il a les syndics. Donc les syndics, ce sont nos maires d'aujourd'hui. Enfin, généralement, on dit toujours les syndics. Donc ça englobe le maire et celui qu'on appellerait aujourd'hui son ou ses adjoints. Après, il y a tout un déploiement de fonctions diverses. Alors, les cureurs, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui sont chargés d'aller dans les maisons où il y a eu l'épidémie. Bon. Curé, ça veut dire que la méthode était assez radicale. On sortait tout ce qui était dans la maison et on y mettait le feu. Le feu, il y a toujours eu le côté purificateur. On y mettait aussi parfois des parfums. On se rend compte qu'il y a un usage assez intense du genièvre. On fait brûler du genièvre. Bon, on parfume l'air, donc les miasmes maladifs sont bons. La tâche qui n'était pas la plus simple, les enterreurs, parce que bon, c'est une époque où il faut du monde. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait des relais. On est dans un habitat qui est toujours un habitat avec de nombreux hameaux. Et donc, chaque hameau à un disonnier qui est chargé d'appliquer ce qui vient d'en haut. Les crieurs, ce sont des gens qui, tous les matins, étaient chargés de faire le tour des maisons. Ils criaient devant la maison. Si quelqu'un sortait, c'était bon. Si personne sortait, bah, vous remontez jusqu'aux cureurs, les enterreurs, etc. Et les gardes, c'était une garde civile, c'est-à-dire que tous pouvaient être appelés. Et il y avait les plus grosses gardes, c'était les gardes au col. J'ai retrouvé dans les archives de Moutier un appel qui était fait pour que des moutierins aillent au col du Mont-Cenis, parce qu'on dit l'épidémie est en Piémont. Donc il fallait, comme ça, les gens se déplaçaient. Peut-être pas très bon, mais en tout cas, voilà, il fallait vraiment verrouiller les entrées. Et encore une fois, on est dans une région dans laquelle, si on verrouille l'école, c'est déjà assez efficace. Et puis après, essayer de faire une bonne thériaque. Alors, la bonne thériaque, c'est quoi ? Faut mettre le plus de choses possible. Alors, une bonne thériaque, c'est au minimum une quarantaine de produits, de plantes, etc. C'est la recette la plus drôle que j'ai trouvée, sont les poulets de Textor. Comment, lorsque vous avez la peste bubonique, il faut mettre des petits poulets vifs. Vifs, ça veut dire vivants. Ayant le cul plumé, appliqué sur les bubons, ou tumeurs charbonneuses qui accompagnent la peste, et les y tenir une demi-heure. Déjà, juste ça, faire tenir un petit poulet pendant une demi-heure, en leur serrant le bec. Pourquoi ? Parce que, afin qu'ils soient contraints d'attirer l'air par le cul et le venin avec. C'est vrai que ça nous fait rire, mais quand on va parler du mois de mars 2020 dans 3 siècles, vous savez, les conférences de la Société d'Histoire et d'Archéologie en 2320. Mais voilà, je veux dire, il y a un moment où l'homme est totalement démuni. Et là, il l'est d'autant plus qu'on ignore totalement le mécanisme expérimental qui peut permettre d'isoler le virus et puis ensuite d'agir sur ce virus. Alors là, oui, j'ai mis cette photo et ce dessin Bah, je pense que voilà, quand on n'a pas grand-chose, on n'est pas trop loin de... C'est le fameux médecin de la peste, hein, c'est des dessins du XVIIe siècle. Bon, bah, il a une charlotte sur la tête, un peu plus volumineuse, il a un masque. Alors, le masque avec ce grand nez, parce qu'on remplissait le nez de différentes plantes parfumées. Et puis, il a la surblouse, il a des gants. Et puis, alors, la baguette, elle est diversement interprétée. Certains disaient que c'était peut-être un moyen de prendre le pouls, mais bon. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, les manières de se protéger ont guère évolué. Ce qui est peut-être, en définitive, plus intéressant, c'est que, mais là, il faut attendre que l'épidémie soit finie, c'est qu'on se rend compte que quand il y a beaucoup de morts, bah, on a quasi automatiquement beaucoup de naissances. Ce qui d'ailleurs, moi, m'interroge beaucoup, parce que, vous savez, on nous dit toujours, autrefois, la contraception, on ne connaissait pas. Mais si on sait, à la demande, faire beaucoup d'enfants, c'est peut-être qu'à la demande, on savait en faire moins. Ben, on va le voir aussi sur quelques exemples. Autelus, donc on revient dans le Beaufortin. Pour l'instant, ce tableau-là, peut-être qu'il n'est pas très significatif, parce que donc 1622-1629, on a une moyenne mensuelle de 5 naissances. Ensuite, en 1630, on tombe à 4,5. 1631, on est toujours un petit peu au-dessus, mais voilà, 4,8. Mais il n'empêche que si on regarde de plus près 1631, de janvier à août, on a 37 baptêmes. Donc on est assez proche de l'année précédente. Mais de septembre à décembre, on en a 21. Ça veut dire que d'un seul coup, on passe de nos 4, quelque chose à 11,5. Et il faut faire le lien. Autelus, 222 décès en 1629 et 1630. Donc on est passé de 27 décès par an à 222. Et l'épidémie à Autelus, elle s'est arrêtée à l'entrée de l'hiver 1630. Donc si je veux faire des baptêmes en septembre 1631, ben, il faut que je fasse des enfants dès le mois de janvier 1631. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épidémie, elle s'est arrêtée sans doute en novembre ou en décembre, et les baptêmes qu'on va enregistrer à partir du mois de septembre, ben, ce sont des conceptions qui arrivent dès janvier, février, mars 1631. Est-ce que c'était pleinement planifié? Est-ce que c'était pleinement réfléchi? Mais il n'empêche qu'il y avait cette sorte presque d'instinct de survie qui faisait comprendre aux gens que quand il y a eu beaucoup de décès, il fallait que très vite la société se reconstitue, et le seul moyen, c'est de procréer beaucoup plus qu'on ne le fait habituellement. Alors, comme il faut faire les choses quand même en respectant... si on veut avoir des enfants, d'abord, il faut se marier. Très bien. Quand on regarde les mariages, c'est aussi significatif. Et on revient à Montgiraud. Janvier à septembre, zéro mariage, parce qu'on ne se marie pas quand l'épidémie est là. Octobre à décembre, 19 mariages. 1631, 12. Et après, bah, il n'y a plus personne à marier. Hein, 1632, 4 mariages, 33, 4 mariages, et puis après on a 2 années sans mariage. Là où il y a eu la peste, et on a vu qu'à Montgiraud, vous vous rappelez ce clocher, c'était le mois de juillet qui a été le mois le plus difficile. Et donc, vous voyez, juillet, bon, on peut supposer que août-octobre, on est en décroissance, et dès le mois d'octobre, c'est une sorte de clochers pointus, mais cette fois des mariages. On a un premier clocher, c'est les morts, un deuxième, c'est les mariages, et avec un décalage de 9 mois, on a le clocher des naissances. Bon, j'en termine avec la peste, en posant simplement cette question, pourquoi la peste régresse après ces 150. Pfizer n'y est pour rien, hein. C'est peut-être simplement parce qu'on a une augmentation de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Donc ça veut dire que notre ratus est parti au sud. Et c'est certainement des changements climatiques qui ont entraîné cette régression de la peste plus qu'aucune action humaine. Je dis deux mots sur le choléra. Le choléra, chez nous, c'est surtout un phénomène du 19e siècle. 1832, la Savoie est peut-être moins marquée. Enfin, les États de Savoie, oui, puisque 1832, il y a des ravages énormes à Gênes, donc dans la partie Outremont. De ce côté-ci, c'est 1854 qui est la grande année du choléra. Le choléra, donc, qu'on définit comme le choléra morbus, est endémique en Inde, donc ça veut dire que c'est le foyer principal, et il est devenu épidémique en Europe dans les années 1830-1870. C'est un peu fastidieux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la statistique sur l'ensemble d'un territoire. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que là, on a quand même des médecins. Et les médecins, généralement, ils éditent des petites plaquettes sur le choléra et dans lesquelles ils donnent des chiffres. Pour la tarentaise, alors quand je dis tarentaise, hein, c'est toujours compliqué. Moi, je parle de la tarentaise, le diocèse de Tarentaise. C'est un peu plus que la tarentaise administrative et géographique. Les médecins disent, en Tarentaise, il y a eu 210-220 décès. Alors, vous voyez, on change de jauge, hein. On n'est plus dans les 210 dans un seul village. Là, on est au niveau de 80 paroisses. Bon, sauf que, quand vous avez un esprit un peu tordu comme moi, vous mettez à dépouiller tous les registres des décès de Tarentaise en 1854. Ça muscle, hein, c'est des gros registres. Et moi, je trouve qu'il y a une variation de 400 par rapport à l'année précédente et par rapport à l'année suivante. Donc, c'est soit il y a eu le choléra, il y a eu autre chose, mais l'autre chose, on ne voit pas bien ce que c'est, soit les chiffres des médecins sont moitié de ce qui s'est réellement passé. Et ça peut s'expliquer, parce que, voilà, même en temps d'épidémie, en 1850, l'appel aux médecins, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Souvent, on se rend compte que les médecins arrivent quelque part quand il y a déjà eu un nombre de morts considérable. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que le médecin, bah, il constate plus qu'il ne soigne. Parce que le médecin, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, il ne sait pas comment le choléra se propage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des conseils de bon sens. Il va dire qu'il faut se laver les mains. Ça n'empêche pas un virus de se propager. Voyez. Les médecins n'enregistrent que ce qu'ils ont constaté. Et c'est là où il faut se méfier. Vous voyez, on donne des chiffres, mais en réalité, on est au double des chiffres qui circulent dans ces plaquettes du 19e siècle. Ce n'est pas le choléra. Mais c'est une parenthèse, et pour vous faire comprendre, on est à Saint-Jean-de-Belleville en 1772. C'est une épidémie, je suis incapable de vous dire ce que c'est. En tout cas, c'est très localisé. C'est peut-être même pas tous les hameaux de Saint-Jean-de-Belleville. Bon. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un nombre, enfin ce qu'on peut calculer, on a une moyenne des décès dans les années 1770 à 1774, si je mets de côté 1772, qui est de 16,5. En 1772, j'ai 75 décès. Donc vous voyez, 16,5, 75. En février, 9 morts. Il y a 9 morts, ça veut dire qu'il y en a la moitié de ce qu'il y a une année normale. Et au bout de 9 morts, on se décide à faire monter un médecin de Moutier. À cette époque, il y a deux médecins en Tarentaise. Quand je dis deux médecins en Tarentaise, ça veut dire qu'il y a deux médecins entre Conflans et Val d'Isère. Vous voyez, les déserts médicaux, on n'est peut-être pas encore arrivé au bout. Hein. D'autant plus qu'à partir de 1774, il n'y en aura plus qu'un. Il y a un médecin à Moutier, point barre. Donc, il se déplace, c'est le docteur Merme, et qui va à Saint-Jean-de-Belleville avec un chirurgien qui s'appelle Bastard. Il y est le 8 février. En mars, il y a 8 morts. En avril, il y en a 7. En mai, il va y en avoir 18. Donc, l'équivalent d'une année normale. Et c'est une épidémie qui, a priori, persiste jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est simplement pour dire, voilà, la médecine, ça existe. Il y a des gens qui sont médecins, mais en cas d'épidémie... Alors notre médecin, il fait un compte-rendu. Et ça peut sembler presque scientifique. Je vous lis son compte-rendu, c'est pas très long. Au village de la Combe, donc un des hameaux de Saint-Jean, où étant, nous avons appris sur les 4-5 heures après-midi que la nommée Jacqueline Bermond, âgée de 37 ans, était décédée du même jour, près des 8 à 9 heures du matin. Nous nous sommes déterminés à faire l'ouverture du cadavre pour reconnaître la cause de sa mort. En conséquence, nous avons commencé à faire ouvrir le viscère dans toute son étendue. Nous avons trouvé dans sa cavité un amas de sérosité gluante, quelques vers et le corps de ce viscère enflammé. Ensuite, après avoir fait ouvrir le canal intestinal, nous avons trouvé dans l'intestin duodénum toute sa surface interne, gorgée d'un sang putride. À différentes distances des intestins grêles, des vers, et le gros intestin, météorisé en partie, est plein de matière fécale. Ayant fait ouvrir le sternum pour découvrir la cavité de la poitrine, nous avons reconnu que les vésicules du côté droit du poumon, excédant son volume naturel, étaient gorgées de sang putride et sa surface gangrénée. Observation. On ouvre, on regarde, on décrit. Diagnostic. Ce qui nous a déterminés à croire que cette femme était morte de fièvre inflammatoire et vernineuse. Et le médecin redescend à Moutier, et le mois d'après, il y a 8 morts, et puis 7 morts et 18 morts. Bon, c'est scientifique en ce sens qu'on a compris qu'il faut observer, que l'œil ne suffit pas, donc il faut ouvrir. On décrit, et conclusion, elle a dû avoir une fièvre qu'on dit inflammatoire et vernineuse. Voilà, je pense que ça explique d'où on vient. Vous voyez, et au 19e siècle, on en est encore au même état. On revient à notre choléra, on est à M, et M a failli succomber d'un sirop. Qui est le sirop Pagliano, qui existe toujours d'ailleurs. Ce sirop, la pub qui s'est faite bien après 1854, c'est quoi ? C'est un élixir purgatif. Quand vous avez le choléra, ça veut dire que naturellement, ça s'échappe de partout. Donc vous imaginez si vous prenez un purgatif là-dessus. Comment ça s'est passé ? Un certain Pierre Bérard s'est fait le promoteur à M, de l'élixir en question. Alors, ce qui aurait dû quand même un peu poser question, c'est qu'en une semaine, Pierre Bérard meurt, son épouse meurt, ses trois enfants meurent et son frère meurt. C'est peut-être pas le bon remède, sauf qu'il était très généreux. Pierre Bérard avait distribué des bouteilles à toutes ses connaissances à M, généreusement en disant « ben voilà, j'ai pu avoir ce sirop, c'est important ». Et l'intendant de Tarentaise, Manu Militari, est obligé de faire saisir tous les flacons qui traînent dans les maisons d'M. Maintenant, quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, je ne veux pas en dire du mal, parce que je sais quand même que je suis à Chambéry, donc je ne suis pas fou à ce point-là, hein. Mais né en 1854, le fameux élixir Bonchamp, qui a sûrement, je veux dire, des vertus très importantes, il est né pour lutter contre le choléra. Bon, il n'a peut-être pas fait beaucoup de morts, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il ait soigné beaucoup de gens. Entre parenthèses, en 1854, il y a aussi une chose un peu particulière qui touche plusieurs communautés de Savoie, c'est un trafic d'eau de la Salette. Salette, c'était à la mode. Donc voilà, il y a des gens qui vendent de l'eau de la Salette, qui à mon avis était peut-être de l'eau de la Laisse ou d'ailleurs, mais il n'y a pas de petit profit. Alors, après la peste et le choléra, deux mots sur la grippe de 1918-1919, qui, en réalité, hein, on a les premières traces dès le mois de mars 1918, et on peut considérer qu'on en est sorti au mois de juillet 1921. Hein. Alors, souvent on dit 1918, mais c'est quand même beaucoup plus large. Alors, la mal nommée, hein, parce qu'on dit toujours la grippe espagnole. Bon. Elle a une origine lointaine, qui est une origine asiatique, mais là où elle a pris de l'ampleur, ce sont dans les camps d'entraînement US. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont décidé de lever une armée pour venir sur notre territoire, les États-Unis, à ce moment-là, n'ont pas une armée de métier. Donc ça veut dire qu'il faut rassembler des futurs militaires dans des camps qui sont immenses, hein, les camps qui ont été montés pour former les gens en quelques semaines, on estime qu'un camp pouvait rassembler environ 70 000 personnes. Et ce sont dans ces camps, c'est dans ces camps qu'est né et que s'est développé ce virus. Parce qu'encore une fois, on retrouve toujours les deux mêmes choses. Qui dit camp dit conditions d'hygiène plus précaires et dit ensuite des gens qui vont, d'abord qui sont confinés, qu'on va mettre dans un bateau et qu'on va débarquer sur un autre continent. Donc la grippe, elle traverse l'océan Atlantique. Alors pourquoi elle est dite espagnole ? Bah, là, les Espagnols, ils n'ont pas de chance. C'est que, vous savez que les Espagnols n'étaient pas belligérants. Ils étaient dans une position en dehors de la guerre de 14-18. Donc, eux, ils sont les seuls à avoir eu le temps de faire un peu de statistiques. Donc, ça veut dire que les chiffres qui ont circulé, ce sont les chiffres de l'Espagne, qui n'a pas été touchée plus que d'autres régions. Mais comme les Espagnols fournissaient des chiffres, bah, on a dit que c'est une grippe espagnole, c'est tout. Hein, mais encore une fois, c'est un peu comme le phylloxéra, hein, c'est plus les Américains qui sont responsables. Alors, le bilan, prenez les historiens d'aujourd'hui, on peut se dire, là on est au XXe siècle, on peut se dire, on a des données. Bah, y en a qui disent qu'il y a eu 20 millions de morts, et il y en a qui disent qu'il y a eu 100 millions de morts. Alors, faites la moyenne si vous voulez, mais vous voyez, ça montre bien que même en histoire contemporaine, ça flotte un peu, parce que, on peut le comprendre, ceux qui sont morts pour la France, y en a ceux qui ont eu une balle dans le corps, bon, ok, mais il y en a beaucoup qui sont morts de maladie, qui sont morts à l'arrière, dans les infirmeries, dans les hôpitaux militaires. Qui nous dit que ceux-là, une partie, n'ont pas été retirés du front parce qu'ils avaient contracté cette grippe. Et puis, encore une fois, une guerre, ça se gagne si le moral des troupes est bon. Donc, si tous les soirs, vous dites aujourd'hui, il y a eu tant de morts de la grippe, les gens, vous les couchez. Donc, voilà, on n'a même pas pris la peine... S'il y a 100 millions de morts, certains disent on peut être à 5% de l'humanité de cette époque. En Savoie, je pense qu'il faut rappeler un petit peu ces chiffres-là. On estime que les morts pour la France, c'est 9 843. mais en 52 mois. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne mensuelle qui est de 190. Les morts de la grippe, c'est 2141. Mais la grippe espagnole, en Savoie, on est sur environ 4 mois. Donc ça veut dire que là, c'est 535 morts chaque mois. Donc, vous voyez, la guerre a fait beaucoup plus de morts. Mais si on ramène ça au nombre de morts à un moment, ce qui est très symbolique, c'est Lancelebourg. Bon, c'est toujours cet exemple. Lancelebourg, 30 morts pour la France, 30 morts de la grippe. Et il y a d'autres cas où on est à peu près à ce niveau-là. Et c'est là où on comprend le creux hein, au niveau démographique, parce que ceux qui ont été mobilisés, les plus jeunes avaient 18 ans, 18, les plus âgés avaient 48 ans en 14. Donc ça veut dire que c'est quasiment tous les hommes adultes qui ont été engagés. Donc là, il y a une coupure énorme. Mais dans les morts pour la grippe, il y a énormément de jeunes femmes qui sont mortes. Et à la différence de la grippe habituelle qui touche plutôt les petits et les personnes âgées, là, on a une forme de grippe qui touche énormément les jeunes adultes. Donc vous voyez, le creux, il s'explique par la guerre, mais il s'explique aussi par le fait qu'il y a eu, à la suite de cette guerre, les morts de la grippe. J'avais essayé... À l'époque, on ne parlait pas de patient zéro, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais parti sur cette idée-là, de me dire, est-ce qu'on peut savoir, en tarentaise, qui a été le premier touché ? Et j'étais tombé sur un personnage qui était un militaire, et je dis, c'est l'histoire d'une patate chaude, parce que c'est l'histoire du pestiféré, enfin, du grippé, dont personne ne veut. Il contracte la grippe au front, il est trimballé d'une infirmerie à un hôpital de l'arrière, etc. Comme on se rend compte petit à petit de ce qui se passe, il y a un moment où on lui dit « Bon, on va vous envoyer dans un hôpital un peu plus lointain. » Peut-être qu'il a été content. On l'envoie à l'hôpital de Moutier. Donc, c'est un gars qui était originaire des Avanchés. Valmorel, si ça parle mieux. Et l'hôpital de Moutier, il va y rester. Donc ça veut dire quand même qu'il a fait le front de l'Est, Moutier en train. Arrivé à l'hôpital de Moutier, il y reste 4 ou 5 jours. On commence à comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, ah ben, on va vous envoyer dans votre famille. Donc il arrive aux Avanchés. Bon, peut-être content d'arriver dans sa famille. Résultat, en quelques jours, toute sa famille meurt. Et résultat, on s'aperçoit que d'un seul coup, ça s'enflamme au niveau des Avanchés. Bon, alors, il n'est pas le patient zéro, mais vous voyez, c'est intéressant de voir comment ce personnage qui contracte la maladie à des centaines de kilomètres, comment on va le renvoyer d'un lieu à l'autre. À mesure qu'il se déplace, bah, il sème quelques virus. Et à la fin, bah, il termine dans son village, mais en contaminant quasiment tous les Avanchés. En tarentaise, bon, bah, on a eu quand même aussi un personnage important, Jean-Baptiste Biolay, hein, qui était l'évêque de tarentaise depuis 1907. Il est mort de la grippe en 1918. Donc vous voyez, on coche toutes les cases. Hein. On a un archevêque mort de la peste, on a un évêque mort de la grippe. Et puis, bah, il faut bien se rendre compte, hein, la guerre se termine. Donc si la guerre se termine, ça veut dire qu'il faut redémarrer l'économie. Ben oui, mais vous redémarrez l'économie si vous avez des bras pour la redémarrer. Les usines Giraud. Les usines Giraud, c'est les usines d'usine. Énorme. 3600 personnes travaillent dans ces usines. 900 cas de grippe. Pas 900 morts, hein, mais 900 cas de grippe, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a 900 personnes qui ne sont plus dans l'usine. les usines de Notre-Dame de Briançon, 300 personnes y travaillent, 170 cas de grippe. L'usine de Saint-Marcel, 150 personnes y travaillent, 80 cas de grippe. 50% de personnes qui sont touchées. Mais aussi, ça veut dire le programme auquel vous avez échappé, parce qu'il serait quand même temps que je conclue. N'oublions pas la variole, qu'on appelle aussi la petite vérole. En parenthèse, un dernier grand assaut en 1884, où une grande partie de la population de la Gure, on est entre Sainte-Foy et Tignes, donc très au sommet de la vallée, et ça a été endémique pendant des siècles, hein, mais ce n'est pas une épidémie comme la peste qui touche les grands territoires. Ça va toucher un village, ça disparaît, puis on le retrouve ailleurs et ça se déplace. La diphtérie, en particulier la diphtérie des nourrissons, hein, qui était très présente. Le typhus épidémique, ce qu'on a appelé la fièvre des camps, parce que les poux ont un rôle majeur. En Savoie, on a beaucoup de cas dans les années 1816, 17, 18. Il ne faut pas oublier que la Savoie a été le terrain d'un certain nombre de présences de troupes, à la fois les derniers soubresauts des troupes napoléoniennes contre les troupes sardes et les troupes autrichiennes, qui étaient stationnées assez souvent au sommet de la Combe de Savoie, à une époque où l'Isère était plus un marécage qu'autre chose, donc ça aussi, vous voyez, ça complique. La lèpre, bon, j'ai vu que vous aviez un numéro sur la lèpre et les léproseries, donc je vous y renvoie, et etc. Parce qu'après, il y a tout ce qu'on n'a pas vraiment su nommer, et que vous allez comprendre sur ce graphique. Voilà, c'est les morts de Moutier entre 1700 et 1750. Et chaque intervalle, c'est un intervalle de 10 ans. Eh bien, si vous regardez simplement, peu importe le nombre, mais tous les 10 ans, vous avez en moyenne 3 clochers. Ça veut dire que tous les 10 ans, vous avez une année qui est marquée par une épidémie qu'on ne sait pas bien définir. Parfois, c'est un double clocher, ça veut dire que ça reste pendant plusieurs années, vous voyez. Et ça, on pourrait obtenir le même résultat partout. Hein. On est sur des choses très, très classiques. Alors, je dis, voilà, deux mots pour terminer, parce que c'est vrai que l'aspect religieux n'est pas négligé. Et dans ces moments-là, on s'est beaucoup tourné donc, du côté de Saint-Sébastien et du côté de Saint-Roch. Alors, Saint-Sébastien, a priori, il n'a rien à voir avec la peste. Hein, c'était un soldat romain, un capitaine d'archers. Comme il est devenu chrétien, il a été persécuté. On l'a attaché à une colonne et ce sont ses propres archers qui lui ont criblé le corps de flèches. Et donc, un corps criblé de flèches, c'est un peu comme un corps bubonique. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lien entre le martyr de Saint-Sébastien et la peste. Et puis Saint-Roch, c'est un Romieux. Donc un Romieux, c'est comme un jacquère, mais qui fait le pèlerinage de Rome. Il était de Montpellier et il a contracté la peste au cours de ce pèlerinage. Il a été obligé de se réfugier dans une forêt, donc il a eu une mise en cabane. Et Saint-Roch, on le représente toujours, donc vous voyez, il soulève son vêtement pour qu'on voit le bubon sur sa jambe. Et vous distinguez peut-être, à ses pieds, il y a un petit chien qui tient dans la gueule un pain. Et parce qu'on dit que tous les jours, il y a un petit chien qui est venu le ravitailler, qui amenait un pain à Saint-Roch dans la forêt. On peut se poser la question, est-ce que le petit chien de Saint-Roch, ce ne serait pas devenu le roquet ? Vous êtes une société sérieuse, donc j'ai dit, on peut se poser la question. Si on regarde la parenthèse, ben, il n'y a pas moins de 97 chapelles qui sont dédiées, donc soit à Saint-Sébastien, tout seul, soit Saint Fabien et Sébastien. Alors Fabien vient là parce que comme Sébastien, on le célèbre le même jour. Donc ils sont associés, mais il n'a rien à voir avec les épidémies. Saint Roch, donc 37 chapelles. Saint Roch et Sébastien, 15 chapelles. Et 5, Saint Roch, Saint Fabien et Saint Sébastien. 97 chapelles, 80 paroisses. Donc ça veut dire qu'il y a même des paroisses où vous avez plusieurs chapelles dédiées à ces saints, ce qui montre l'importance des épidémies. En règle générale, Saint-Sébastien tout seul, ce sont les chapelles les plus anciennes. Le culte de Saint-Roch, il commence à se développer au XVIIe siècle. Donc quand vous avez Saint-Roch tout seul ou les associations Roch-Sébastien, on est plutôt sur des chapelles d'après 1630, 1640 à peu près. Donc voilà, c'est un aspect qui a son importance parce que bon, bah, c'est vrai que dans ces populations très démunies, bah, se tourner du côté d'un saint protecteur, ça avait son importance. Moi, ma conclusion, bah, elle va être très très simple. Je vais repartir de la question que m'avait posée le fameux journaliste en avril 2020. Il m'avait dit, à partir de ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui se ressemble avec ce qu'on vit aujourd'hui ? Je lui avais répondu, bon, j'ai le sens de la concision, je lui avais répondu tout. Tout se ressemble. Aujourd'hui, je me dis, si on me posait la même question, c'est peut-être aller un peu loin, mais j'aurais presque envie de dire rien. Il n'y a rien qui ressemble vraiment. Pourquoi ? Parce que on a réussi, bon, ça marche plus ou moins, mais on a réussi quand même en moins d'un an, voyez, entre mars 2020 et comment s'appelait-elle Morissette. Morissette, on doit être en décembre. On est passé en moins d'un an de la médecine empirique à la médecine expérimentale. Voilà, c'est quand même ça la grande différence. Quand l'épidémie arrive, on est aussi démuni qu'on pouvait l'être en 1630. Mais on a des parades qu'on peut mettre en place assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on est débarrassé de l'épidémie, hein, c'est très différent. Mais aujourd'hui, on peut quand même, bah, ne serait-ce que, voilà, on peut se rassembler, on peut venir à une conférence, aller en boîte de nuit le samedi soir, etc. Donc ça veut dire que, voilà, il y a une parade. La chronologie, hein, 1346 arrivée de la peste, elle disparaît fin 17e. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Yersine, c'est en 1896 qu'il va isoler le virus de la peste. Donc vous voyez, là, on est sur le temps long, alors que nous, bon, on peut quand même entrer sur le temps court. J'arrête. La nuit est tombée. Si vous avez une ou deux questions...